En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 2 juillet 2007, l'Académie des sciences morales et politiques recevait Alain Larcan, membre titulaire de l'Académie nationale de médecine, pour faire une communication consacrée au thème « L'aide médicale urgente, évolution et perspective ». Retrouvons-le de ce pas en séance.
Messieurs les chanceliers, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, vous connaissez tous la parabole du bon samaritain qui, pris de pitié, s'avance près d'un blessé, bande ses blessures, y verse de l'huile et du vin, puis l'ayant fait monter sur sa bête, l'amena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Je dirais que tout est dit dans l'association des secours et des soins d'urgence. Car en effet, dans des circonstances variées, mais surtout lors des combats, les légionnaires de la colonne Trajan, les cavaliers de l'empereur Maurice, les moines et frères convers, porteurs de civières, les garçons qui entourent Ambroise Paré au siège de Metz, les porteurs des ambulances de Sully au siège d'Amiens, les despotas de Percy ne font pas autre chose que d'amener le plus rapidement et le plus confortablement possible le blessé au chirurgien. Le relèvement sur le champ de bataille, par exemple, peut se faire à bras d'homme, mais il peut être aidé par des moyens hippomobiles avant de voir arriver les moyens automobiles et aériens. À ce sujet, sous l'Empire, les deux grands chirurgiens, baron d'Empire, futur baron d'Empire, Larrey, dès le siège de Spire, et Percy, le futur chirurgien en chef de la Grande Armée, vont préconiser deux tactiques différentes. Larrey, avec ses ambulances volantes, va chercher le blessé à l'avant pour le ramener aux ambulances, où se trouvent les chirurgiens. Percy met des chirurgiens et leurs aides sur un caisson d'artillerie déclassé. Et il les place à califourchon et le chirurgien se rend au-devant du blessé. Aujourd'hui, on cherche une sorte de mi-mesure, convergence entre ces deux tactiques. Au XVIIIe siècle, à côté de ces blessés sur le champ de bataille, on s'intéresse aux accidents susceptibles d'être mortels, que sont en particulier les noyades et les asphyxies. Les asphyxies par les mofettes, par les vapeurs méphitiques, on ne connaît pas encore l'oxyde de carbone ni l'hydrogène sulfuré, mais on en connaît les méfaits. Et on cherche à tirer la victime hors du péril, donc à réaliser une opération de sauvetage hors d'un milieu, disons, agressif, et de lui porter aide, c'est-à-dire de le secourir, en particulier par des méthodes qui, pour certaines, sont très proches des méthodes de ressuscitation ou de réanimation que nous utilisons aujourd'hui, à commencer par le procédé du bouche à bouche. Et on s'accordait, dès le XVIIIe siècle, pour que l'intervention soit aussi rapide que possible, que les soins soient donnés de façon prolongée, et ceci, bien entendu, par des personnes que l'on n'appelle pas encore secouristes, le terme apparaît avec Gardanne à la fin du XVIIIe siècle, car curieusement, le terme de secouriste a été créé au départ pour secourir les convulsionnaires du cimetière Saint-Médard autour de la tombe du diacre janséniste Paris. Alors, des sociétés de secours s'organisent, se forment à Amsterdam, à Hambourg, à Londres et à Paris, aux années 1770, un pharmacien devenu échevin, Pia, créé en 1772 pour le compte de la ville de Paris, un établissement en faveur des personnes âgées, en établissant le long des rives de la Seine des corps de garde où il place des boîtes entrepôts à l'intérieur desquelles il y a les moyens de réanimation de l'époque et en particulier de curieux moyens de fumigation par vapeur de tabac, par voie respiratoire mais aussi par voie rectale, tels qu'ils avaient été préconisés par les Indiens Iroquois, et le procédé était connu grâce au père de Charlevoix. Les intendants s'intéressent à ce problème des secours publics, en particulier Thiroux de Crône à Rouen et Pajot à Grenoble. Nous avons également, à Nancy, eu des tentatives de ce genre avec Dominique Benoît Armand. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que d'emblée, on se rend compte qu'il y a la possibilité d'un secours polyvalent et univoque, aussi bien pour les accidents de nature traumatique que pour les asphyxies ou pour les morts apparentes d'enfants à la naissance. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'on tente d'introduire un médecin, en l'occurrence un interne des hôpitaux, dans les ambulances de moyens de secours pour noyés et asphyxiés à Paris. Le docteur Nachtel fait une tentative, encouragée par Victor Hugo, mais cette tentative n'a pas de suite et elle s'enlise dans les rivalités entre l'assistance publique de Paris et la ville de Paris. Au XIXe siècle, sur le plan militaire, tout le monde sait que le service de santé des armées a des résultats relativement médiocres, ce qui est à l'origine de l'initiative, particulièrement bonne, de Dunant de créer la Croix-Rouge internationale, ceci après ce qu'il avait constaté sur le champ de bataille de Solferino. Pendant le premier conflit mondial, les conditions du relèvement, les premiers soins apportés au poste de secours, la nécessaire catégorisation ou triage en cas de perte importante, le traitement chirurgical réalisé dans des ambulances avancées ou dans des hôpitaux, enfin le transport par ambulance automobile ou les évacuations par train sanitaire ne cesseront de s'améliorer à tel point que, in fine, en 1918, on arrive à une sorte de perfection. S'inspirant de cette expérience militaire qui avait mal commencé, Charleroi sanitaire a-t-on dit, mais qui s'achève à ce point de vue assez bien, à partir de 1924, un précurseur remarquable, le médecin chef du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, Cotte, qui deviendra médecin général, établit une véritable doctrine des secours. Ambulances bien réparties dans les centres de secours, prompt secours et soins donnés sur place, se continuant pendant le transport, association du sauvetage, du secourisme et des soins d'urgence, présence éventuelle d'emblée ou sollicitée d'un médecin. Mais quand il voudra spécialiser un hôpital parisien dans les urgences, que ce soit l'Hôtel Dieu ou la Maison des gardiens de la paix, il ne put entamer le mur d'indifférence, voire même d'hostilité, quand il cherchera à organiser déjà les urgences à Paris. Il faut attendre la fin du Second Conflit mondial, et en particulier en France, pour nous, les années 1950-1970, pour que l'on commence à s'intéresser à l'échelon préhospitalier. Marcel Arnaud, à Marseille, neurochirurgien, s'intéresse à la désincarcération, au dégagement, aux soins sur place, pendant le transport des traumatisés de la route et édicte ce précepte, l'on ramasse trop souvent un blessé, l'on transporte un mourant, l'on hospitalise un mort. Et dans l'esprit de ce principe, à Salon de Provence, en 1957, un chirurgien mettent en place une antenne ambulancière médicalisée, orientée vers les accidents de la route. Lors de la grande épidémie de poliomyélite en 1956, mon ami Maurice Carra crée de toutes pièces un service mobile équipé de respirateurs permettant le transport interhospitalier, souvent à des distances de 150-200 km, permettant le transport dans de bonnes conditions des détresses neuro-respiratoires. En 1962, je prends l'initiative de former à Nancy des externes des hôpitaux pour aller à la rencontre de toutes les situations urgentes, détresse cardio-circulatoire, respiratoire, toxicologique, traumatologique. J'établis un tour de garde quotidien dans une caserne de sapeurs-pompiers. J'en multiplie les postes en couvrant les secteurs du département de Meurthe-et-Moselle de telle sorte que tout blessé, tout intoxiqué, tout cardiaque puisse être joint dans un rayon de moins de 18 km par une ambulance médicalisée dont les délais d'intervention devaient être les plus courts possibles. Des initiatives comparables, mais cependant un peu différentes par leur hospitalocentrisme, sont prises par mes collègues Serres à Montpellier, Larangue à Toulouse, Carra et Huguenard à Paris. La nécessité d'une coordination départementale à partir d'un centre hospitalier, souvent d'un centre hospitalier universitaire, se fait sentir, aboutit à la notion capitale d'aide médicale urgente, même si ce terme a été utilisé d'abord par les Belges et même par les Ivoiriens, et du service d'aide médicale urgente, le SAMU, dont le sigle euphonique est aujourd'hui si familier qu'il s'est substantivé et s'applique à toutes les situations de détresse, non seulement physique, mais encore morale et sociale. Alors ce service, je suis obligé de vous le décrire très rapidement, il comporte des bras armés que sont les SMUR, il y a beaucoup de sigles, Service Mobile d'Urgence et de Réanimation, un cerveau mémoire, qui est un central de réception et de régulation des appels, disposant au moins d'un numéro commun qui est le numéro 15 dont nous reparlerons, disposant de permanenciers auxiliaires de régulation médicale et d'un médecin régulateur et bien entendu toute une série de possibilités de conventions obligatoires avec les services départementaux d'incendie et de secours ayant eux-mêmes leurs véhicules de soins aux victimes et leur commandement opérationnel et leur transmission centrée par le 18, relation avec les permanences de soins des médecins praticiens, les dispositifs privés de médecins urgentistes qualifiés aujourd'hui de SOS médecins, les ambulanciers privés, les associations de secouristes. Il y a en 2007 107 SAMU, en général un par département avec quelques aménagements, et 384 SMUR. Alors, l'activité quantitative de ces SAMU et de SMUR est considérable. Je donne l'exemple d'un SAMU que j'ai dirigé pendant plus de 30 ans, le SAMU 54. En 2006, il a traité 145 000 affaires, réalisé 2500 transports terrestres, médicalisés, 500 transports automobiles secondaires médicalisés et environ 600 sorties aériennes. Mais c'est beaucoup plus sur le plan qualitatif que les résultats d'une intervention médicalisée, je n'ose pas dire agressive, disons active, sont importants, tout particulièrement dans le domaine de la toxicologie, du polytraumatisme et surtout de l'urgence cardiaque absolue que constitue l'infarctus du myocarde, pour lequel, si en fonction de l'appel et de l'arrivée des secours, en l'occurrence un service mobile d'urgence et de réanimation, s'il ne s'est pas écoulé plus de 90 minutes entre le début de la circonstance médicale et l'arrivée des secours, nous pouvons réaliser en milieu extra-hospitalier une thrombolyse et les résultats obtenus actuellement dans le domaine de l'infarctus du myocarde sont indiscutablement parmi les meilleurs du monde à cause justement de cette intervention extra-hospitalière. Alors, rien n'est parfait et je dois me livrer devant vous à une certaine étude critique, voire même à une remise en cause de certaines notions générales de l'aide médicale urgente. D'abord, le problème législatif. Alors, débauche de lois depuis 67, mais surtout aux environs de 86-87, de décrets et de circulaires. Les apparences administratives et juridiques, et d'un juridisme souvent très pointilleux, ainsi que l'ampleur des moyens déployés, donnent l'impression d'un service public important, cohérent, couvrant le territoire national et les tomes d'hommes. Mais ce concept d'aide médicale urgente, j'aurais préféré parler de secours au sens large, de façon globale, reste flou car il ne recouvre, en dépit des apparences, aucune unité conceptuelle ou fonctionnelle, et ceci dans un de ses premiers rapports toujours fondamentaux. Adisteg, au Conseil économique et social, l'avait remarqué, il y a une hétérogénéité des intervenants de l'ensemble de la chaîne des secours, en commençant par les victimes, le public, les témoins, les secouristes éventuels, un médecin présent sur les lieux, les services de police et de gendarmerie, les sapeurs-pompiers avec leurs moyens d'intervention propres, le cas échéant leurs infirmiers, leurs médecins, les médecins praticiens généralistes, les unités mobiles hospitalières, c'est-à-dire les SMUR, dépêchés par le SAMU, les ambulanciers privés et à l'hôpital d'accueil, tout le personnel médical et paramédical de l'hôpital. Or, les textes qui concernent cette AMU, aide médicale urgente, émanent du ministère de la Santé et traitent de la question comme s'il s'agissait dans son ensemble d'un service public hospitalier, même et surtout lorsqu'il intervient hors de l'hôpital, concerne les transports sanitaires, l'accueil hospitalier, la médecine d'urgence, le plan blanc. D'autres textes parallèles émanent du ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité civile et concernent les missions de sauvetage et de secours pour les personnes et les biens, les accidents de la route, les missions des sapeurs-pompiers, le secourisme, les dispositions hors sec, le plan rouge, etc. Même s'il s'agit de textes interministériels où l'on cherche spontanément et sincèrement des rapprochements, les textes exposent en fait deux conceptions, deux systèmes. L'un accent tout sur l'hôpital, SAMU, Centre 15, Antenne SMUR, UMH, et la participation des généralistes et des ambulanciers privés. Les autres, le maillage des sapeurs-pompiers. Adisteg savait qu'il aurait fallu prendre en compte la globalité de la chaîne des secours et la spécificité du service public qui est la meilleure sauvegarde de l'intérêt des usagers. Certes, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre des urgences, les blancs contre les rouges, mais il faut éviter que les SAMU considèrent les sapeurs-pompiers comme un personnel ancillaire, auxiliaire du SAMU. Dans le domaine extra-hospitalier, le maillage des sapeurs-pompiers, appuyé sur leurs moyens techniques et professionnels, le 18 reste d'incontournables partenaires et partout, il convient de globaliser et d'intégrer les moyens, de sectoriser et de sous-sectoriser à l'échelon du canton la véritable couverture de l'ensemble du territoire en réalisant une coordination aussi souple et harmonieuse que possible, une collaboration et une concertation de tous les instants, de tous les jours des services publics concernés. Je passe sur le perfectionnement technique d'un certain nombre de moyens, car dans ce domaine, nous disposons aujourd'hui de moyens robustes et fiables qui permettent indiscutablement de faire une réanimation de très bonne qualité dans le domaine de l'urgence. Un mot concernant la tactique d'intervention des SAMU-SMUR français, ce qu'on appelle l'originalité française, pour ne pas dire l'exception française. Alors, on l'oppose à la conception des secours anglo-saxonne et surtout américaine, il faut bien dire, qui est basée sur la présence dans les ambulances de paramédics, les paramédicaux qui n'ont pas tout à fait le sens que nous donnons à nos paramédicaux. Infirmiers spécialement formés, capable de réaliser de façon automatico-réflexe finalement une mise en condition très bonne forme, y compris une intubation. Et j'ai vu ces secouristes et infirmiers ambulanciers qui sont sollicités, comme on le fait pour un appel taxi, qui patrouille en permanence, je l'ai vu à Seattle, dans l'attente d'un appel. Et une fois qu'ils ont localisé une victime éventuelle et qu'ils l'ont traitée, conditionnée, ils l'amènent à l'hôpital le plus compétent. Alors, l'opposition est devenue polémique, et polémique mondiale, à l'occasion de l'accident spectaculaire de la princesse Diana, le 31 août 1997, dans le tunnel de l'Alma. Vous connaissez les éléments, la princesse, dans un état très grave, et désincarcéré, et je dirais techniqué entre guillemets, par des médecins urgentistes, compétents du SAMU de Paris, pendant 2 heures sur place pour la rendre plus facilement transportable à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où elle décède à 4 heures du matin. L'événement a suscité des commentaires, des hypothèses politiques, sentimentales, criminelles. La responsabilité des soins pratiqués sur place et l'organisation des secours d'urgence a été mise en cause par certains chirurgiens français et surtout des chirurgiens anglo-saxons. Dans un livre écrit par les journalistes du Times, on trouve « Diana dépendue des soins d'un système de médecine d'urgence qui, en dépit de son excellente qualité générale, a peut-être appliqué une méthode désastreuse pour traiter le genre de blessure dont elle venait d'être victime ». Il s'agissait très certainement d'une rupture de l'artère pulmonaire et peut-être de l'aorte. Il est certain que dans ce cas, il vaut mieux transporter ce type de traumatisme thoracique, même instable, jusqu'à un service de chirurgie thoracique. Mais c'est un cas particulier malheureux, qui ne permet pas de remettre en cause toute la tactique française. Cependant, pour les Anglo-Saxons, ils travaillent, disent-ils, selon la tactique du « scoop and run ». Et ils ironisent en disant les Français font du stationnement sur place et du jeu stay and play. Bien sûr, il faut traduire par action sur place, mise en condition de survie, mise en condition de transport et transport le plus rapide possible. De toute façon, aujourd'hui, nous utilisons également des paramédicaux dans l'ensemble des secours. Donc, l'opposition a fait quand même l'objet d'un point de doctrine. Alors, une autre insuffisance qui est indiscutable, c'est celle de l'arrêt cardiaque. Nous avons parlé des résultats remarquables obtenus dans l'infarctus du myocarde, mais par contre, dans l'arrêt cardiaque, pour obtenir une réversibilité sans séquelles sur le plan cérébral, il faut qu'une intervention se fasse dans les 4 minutes. Or, 4 minutes, sauf exception, ce sont des délais d'intervention très supérieurs à celui des moyens lourds médicalisés SAMU-SMUR. Il faut donc, pour obtenir de bons résultats, et dans certaines villes américaines, on obtient jusqu'à 30% de bons résultats. Nous, nos résultats partent de 5%. Il faut les améliorer par 3 mesures. La première, répandre beaucoup plus largement que cela n'est dans la population française les gestes de secours immédiat, le secourisme. Nous devrions avoir un Français sur 5 au moins titulaire d'un brevet de secourisme. Nous en sommes très loin. Deuxièmement, mais c'est seulement la seconde mesure, répandre des défibrillateurs d'emploi facile, semi-automatique ou automatique, dans les ambulances. Personnellement, nous les avons mis dans le département de Meurthe-et-Moselle, dans chaque ambulance de centre de secours de sapeurs-pompiers, il y a un défibrillateur, ça a un coût, bien sûr, et on peut compléter ce qui se fait ailleurs, à Montbard et ailleurs, en mettant des défibrillateurs dans certains lieux où il y a du public. Et troisièmement, même si l'appel est centralisé, il faut que les secours immédiats, le pont de secours, partent au plus près de l'appel et par conséquent, il n'y a là encore que le maillage des sapeurs-pompiers qui est capable de répondre immédiatement, étant entendu que l'appel se fait simultanément au 15 et au SAMU et que les moyens lourds permettant de continuer la réanimation et peut-être demain de commencer l'hypothermie viennent évidemment à la jonction, à la rencontre des moyens immédiatement présents sur place. Dans ce domaine des délais, nous en reparlerons peut-être, il y a une notion que les chirurgiens connaissaient qui est celle de l'heure d'or, heure au-delà de laquelle une intervention en urgence donne de moins bons résultats. Nous, nous ne parlons plus d'heure d'or, nous devons parler de minutes d'or, car le temps perdu dans ce domaine ne se rattrape pratiquement pas ou très difficilement. Puisque nous parlons des moyens lourds, des SAMU-SMUR, je voudrais attirer votre attention sur le problème des hélicoptères. Les hélicoptères, par leur ubiquité, leur rapidité, sont des moyens d'intervention irremplaçables pour les transports secondaires d'hôpital à hôpital, mais sont également très intéressants pour toute une série de missions primaires. Or, ces hélicoptères, avec médicalisation à bord, hélicoptères de jour et de nuit, la réglementation européenne impose maintenant, là encore, charge financière supplémentaire des biturbines, ces hélicoptères, en France tout au moins, sont d'obédience administrative, de rattachement financier différent. Hélicoptère bleu de la gendarmerie, hélicoptère rouge de la sécurité civile, hélicoptère kaki ou sable de la latte, et je passe sur la marine, l'armée de l'air et les douanes, hélicoptères blancs qui appartiennent à des sociétés privées qui offrent leurs services en régie ou en location auprès des SAMU et qui sont subventionnés soit par les collectivités riches, soit aujourd'hui par les agences régionales d'hospitalisation. Or, ce problème, qui serait un chapitre supplémentaire du mal français, je l'avais dit à M. Alain Perfitte autrefois, je l'ai connu, je l'ai vécu pendant 30 ans à Nancy, alors que les hélicoptères bleus étaient à Metz et à Dijon, l'hélicoptère rouge à Strasbourg, il m'avait été promis, mais M. André Bord l'a obtenu à Strasbourg, des hélicoptères kaki extrêmement nombreux, 3, 4 ou 5 régiments d'hélicoptères dans la région, le commandement à Nancy de la division aéromobile, aujourd'hui brigade, et je n'ai rien pu obtenir, si ce n'est en disposition de préavis ORSEC après une heure, ce qui est évidemment impossible à utiliser dans l'urgence primaire. J'ajoute que les Allemands, depuis très longtemps, avec des hélicoptères de types différents et de rattachements différents, opèrent selon le système des cercles concentriques. Quand il y a besoin d'un secours d'urgence, on appelle à tel endroit. Si l'hélicoptère est là, il vient. S'il n'est pas disponible, on appelle un petit peu plus loin. La tarification est globale, uniforme, et j'ajoute qu'elles ne sont pas payées par les services sociaux, mais par les assurances. Le problème de l'appel à secours, le 15 et le 18. Depuis l'invention du téléphone, on s'est préoccupé, donc à Graham Bell, on s'est préoccupé de secours, d'appels de secours, police, pompiers, et pratiquement la réglementation est sortie en 1899 à Paris et à New York de façon simultanée. Ce que l'on appelle les numéros uniques, le 115 en Allemagne, le 900 en Belgique, débouche sur des sociétés d'ambulanciers privés ou publics, mais ne sont pas médicalisées. Les Russes, au début du XXe siècle, dans les grandes villes, trois grandes villes, ont préconisé un système d'appel différencié, dit Skoraya, un pour la police, deux pour les pompiers, trois pour les stations d'ambulance. On aurait pu probablement en France faire la même chose avec le 17 police, le 18 pompiers et le 15 de l'aide médicale urgente, mais dont la généralisation sur le territoire, malgré la coopération des PTT, ne s'est pas faite dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on a une interconnexion obligatoire et qui marche bien entre le 18 et le 15, et je n'ai jamais préconisé personnellement l'hégémonie d'un numéro sur l'autre. Le public a l'habitude des deux numéros. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une interconnexion, une autocommutation souple et intelligente, des renvois d'appels, écoute mixte éventuelle, conférence à trois. C'est ça la meilleure régulation. Je ne vous parlerai pas du 112, qui est un gadget que les Danois ont mis dans la corbeille européenne, peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'autre chose à donner, mais que bien entendu la France a accepté sans aucune étude critique. Je ne vous parlerai pas des CIBIS, je ne vous parlerai pas des autres numéros d'appel uniques, ce qui est évidemment une contradiction ou un oxymore, le SAMU social, le numéro des violences, la CI d'action. Ce qui est certain, c'est que le 15 au SAMU, qui devrait recevoir essentiellement et traiter les appels urgents, reçoit plus de 30% d'appels de consultation déguisée, qui nécessitent du temps. Ceci au détriment d'appels rouges qui sont en attente, à qui on vous dit « vous êtes en relation avec le SAMU, patientez », etc. Donc cet encombrement des SAMU 15 est un fait que l'on va retrouver d'ailleurs avec le service d'accueil, et quelle que soit la qualité, le bon sens, la réactivité des permanenciers et des régulateurs, il y a là une difficulté majeure. Alors, deux solutions, soit élargir la plateforme, c'est la formule que collègue Lillois préconise, toujours plus de moyens, toujours plus de permanenciers, toujours plus de financement, ou au contraire, sélectionner, réduire et réorienter les appels en déconcentrant, en utilisant le maximum de nouveaux numéros, de secteurs, de sous-secteurs, des numéros privés du SAMU, etc., etc. Il y a là toute une technique de façon à ce que le 15 soit réservé aux urgences vraies, objectives, vitales, ou en tout cas ressenties comme telles, qui nécessitent évidemment la même réponse. Combien de fois, quand on décroche le téléphone, on ne sait pas s'il s'agit d'un accident sur une rocade, éventuellement très important, avec de nombreuses victimes, d'un infarctus ou d'un mouvement fébrile chez un enfant. Les structures d'accueil hospitalier, ce qu'on appelle les SAU, là encore, elles ont bénéficié d'une étude critique, d'une analyse rigoureuse et remarquable faite par Adisteg à différentes reprises devant le Conseil économique et social. Et il faut reconnaître que ces recommandations ont été suivies. En effet, c'était l'opprobre de beaucoup d'hôpitaux que ces structures portent. Il y avait parfois un accueil avec un panneau « urgence », mais c'était une façade que je qualifierais de façade à la Potemkine. Aujourd'hui, il y a des services homologués qui, en principe, associent compétence, responsabilité et permanence. Et permanence, permanence 24 heures sur 24, y compris, bien entendu, en fin de semaine. Alors, ce problème a été revu en particulier à l'occasion de la canicule en 2003. Et aujourd'hui, il existe environ 200 structures d'urgence, dites SAU, complétées par des unités de proximité et des pôles spécialisés. Là encore, l'activité est considérable. Augmentation de 64% en 11 ans et pratiquement de 4% par an. Parce qu'il y a bien sûr les urgences convoyées par les SMUR, mais il y a toute une série de personnes qui se présentent spontanément ou accompagnées, qui viennent pour ce que l'on peut appeler une activité médicale non programmée, qui est une activité qui aurait relevé de la consultation d'un praticien, d'une visite d'un praticien ou d'un dispensaire. Et là encore, l'encombrement est certain, puisqu'il y a le flux qui par définition est un flux séquentiel et aléatoire et qui conduit à l'encombrement avec, bien sûr, un allongement considérable des délais sur brancard ou sur une chaise. Alors, ceci a fait l'objet de nombreuses constatations, de rapports, à la fois à la Cour des comptes, au Conseil économique et social, au Parlement, de descriptions pleines d'humour grinçant par des journalistes comme Madame Claire, des écrivains comme Pierre de Boisdreff qui avait parlé du grand embouteillage, même d'un responsable des hôpitaux confronté à l'urgence, Monsieur de Kervas-Doué, et tous évidemment ont souligné la longueur des délais d'attente. Alors pour certaines urgences très spécialisées, on va en général dans des filières bien coordonnées vers des plateaux techniques performants. Mais quand il s'agit de traumatologie, de polytraumatologie, on ne trouve pas toujours le centre de traumatologie qui a toute la plateforme et tous les personnels nécessaires. Quand il s'agit de psychiatrie, il faut, et je l'ai préconisé et réalisé à Nancy, associer les structures des centres hospitaliers spécialisés, les CHS, centres psychiatriques, avec les centres généraux. J'ai créé une unité d'accueil des urgences à caractère psychologique, psychiatrique. Mais quand il s'agit d'urgences non encore étiquetées, médecine générale polyvalente, lorsqu'il s'agit de cas gériatriques, pour lesquels la sensation d'isolement, d'abandon, de dépendance accroît la détresse quand il y a une situation de crise qui conduit à une hospitalisation, les problèmes sont considérables, problèmes de caractère médical, problèmes de caractère social, problèmes de placement, là encore, il faut faire une analyse critique concernant le fonctionnement interne, bien sûr. Le fonctionnement en amont, c'est-à-dire les relations avec les médecins praticiens, aujourd'hui on crée des maisons médicales de garde qui fonctionnent souvent à proximité des SAMU et qui sont là pour décharger en quelque sorte de cette activité médicale aux heures de permanence de soins, donc en particulier de 20h à 24h et en fin de semaine. On crée des structures d'hébergement ou d'hospitalisation provisoire, en dépendant en général des services d'accueil des urgences. Et enfin, il faut réactiver les autres services de l'hôpital pour que le service d'accueil des urgences ne devienne pas un hôpital au sein de l'hôpital. Or, beaucoup de centres hospitaliers disposent de services de plus en plus spécialisés qui accueillent à peine leurs urgences et qui veulent avoir une activité médicale programmée qui s'arrête à heure fixe et qui ne collabore pas obligatoirement avec le service d'accueil des urgences. Un dernier point, le problème de la participation des généralistes. Ce problème est un problème d'actualité, bien sûr, puisque si on admet que 80% des consultants qui se présentent aux urgences relèvent de la médecine générale, il faut intégrer les généralistes au système. Longtemps, L'article 77 du Code de déontologie a été appliqué avec conscience professionnelle par les médecins praticiens généralistes. Pour diverses raisons, cet article a été vivement attaqué et le Conseil national de l'Ordre, au terme d'une négociation très dure, marquée par un refus clair et net des syndicats médicaux, suivi de réquisitions préfectorales, a dû le considérer comme obsolète et a proposé une rédaction nouvelle insistant sur le volontariat. Or, le système, de ce fait, est beaucoup plus précaire, beaucoup plus instable, beaucoup plus fragile. On est un département, M. Mesmer est très attaché, où actuellement, l'on n'a pas pu organiser la permanence des soins sur la base du volontariat et le préfet n'a pas voulu procéder aux réquisitions. Alors, je sais bien que Diderot a dit, mais en d'autres temps, que le meilleur médecin est celui après lequel on court sans le trouver, mais ce n'est quand même pas une solution. Je crains qu'à l'avenir, nous n'ayons un retrait de beaucoup de médecins praticiens ne participant plus à ces permanences de soins et de secteurs et que nous n'ayons plus, en quelque sorte, que des urgentistes privés, SOS médecins, faisant actuellement des visites et faisant demain des consultations, étendant leur rayon d'action très au-delà des villes dans lesquelles ils sont localisés, et bien entendu les médecins de SAMU SMUR qui ne pourront arriver que dans des délais. J'ajoute que cette médecine d'urgence publique travaille sur le principe du forfait, et que les autres services du type SOS médecin travaillent bien sûr sur le plan de l'urgence individuelle et de l'acte, et que sur le plan du financement, cela pose également beaucoup de problèmes. Alors, vous voyez, je ne peux pas évidemment résumer en si peu de temps la complexité des problèmes de toute nature qui se posent, mais on se trouve devant deux types situations urgentes. Les urgences vraies, objectives, vitales ou non, au maximum 25%, dont 5% d'urgence vitale. Tout le dispositif a été construit autour d'elles. Et puis, des situations urgentes, on a même créé l'oxymore d'urgence lente, qui finalement sont des urgences de commodité et de convenance, auxquelles il faut quand même donner réponse, mais par des réorientations. Et tout ceci nécessite une instruction, non seulement des médecins et des paramédicaux, mais une éducation du public, tant sur le plan du secourisme que sur le plan de ce qui est comment appeler et qui appeler. Alors, en nous penchant sur l'expérience française de l'aide médicale urgente, nous voulions attirer l'attention sur la nécessité d'élargir la question en envisageant une politique globale de secours dont les acteurs principaux sont et demeureront les SAMU et les sapeurs-pompiers, mais auxquels doivent s'associer secouristes de la population et médecins généralistes. Des résultats remarquables ont été obtenus, en particulier en ce qui concerne les traumatisés et les cardiaques, même si l'urgence absolue que constitue l'arrêt cardiaque ne peut plus le plus souvent bénéficier rapidement en première intention, des moyens lourds des SAMU. Il faudra beaucoup d'attention et de sagesse pour maintenir, adapter et même restructurer l'organisation actuelle en tenant compte de la diversité essentiellement géographique et démographique, de l'évolution du public, de la nécessaire éducation sanitaire de la population, de la formation et de la disponibilité des moyens en personnel et matériel appartenant à des services différents. Nous préconisons une globalisation de la chaîne des secours, une intégration, une coopération, une mutualisation, cher à Michel Crozier, des acteurs et de leurs moyens, un maillage souple, la réalisation d'opérations à la jonction, en renfort et bien entendu, ce qui est réalisé, l'interconnexion des réseaux de transmission. Les problèmes de délai, la célérité, la rapidité, la vitesse sont capitales. Je me tourne vers M. Jean Foyer. Beneficium egenti bis dat quidat celeriter. C'est deux fois secourir un malheureux que de le secourir promptement. Ce qui est valable moralement l'est également physiquement. C'est très curieux que de constater que dans le domaine de l'urgence ressentie ou réelle, la perception subjective par l'intéressé et son entourage nous rapproche tout à fait de la notion bergsonienne de durée. Intéressant toute la population, cet ensemble de problèmes extraordinairement complexes ne peut être résolu à l'échelon central, encore moins par un seul ministère se plaçant en situation de monopole. Certains principes doivent être proclamés et acceptés par tous. Il ne peut pas y avoir un système homogène et généralisé, harmonieux. La déclinaison ne peut se faire qu'à l'échelon du secteur, par les acteurs de terrain, se connaissant, se respectant mutuellement, travaillant en appliquant les mêmes protocoles d'intervention. Car nous sommes dans ce domaine à de multiples interfaces, personnels médicaux, paramédicaux et secouristes, médecine hospitalière et médecine libérale, publique et privée, rémunération forfaitaire et à l'acte, généraliste et spécialiste de l'urgence dit urgentiste, médecine de terrain au contact du patient et médecine téléphonée, dont nous n'avons pas dit les limites et les difficultés, en particulier sur le plan médico-légal et médico-judiciaire, administrations diverses. C'est peut-être la quadrature du cercle que de vouloir associer proximité et sécurité, rapidité et qualité des soins, efficience et rentabilité, égalité et équité. Il faut cependant se pencher, comme vous l'avez parfaitement dit, Adolf Steg, sur ce qui est évitable et injuste. Il faut tendre vers cet idéal, car les efforts et dépenses consentis sont et demeureront à la mesure des enjeux qui, en dernière analyse, représentent un miroir de notre société et de ses valeurs, d'une part, conception élargie du service public, tant pour les médecins praticiens que les cliniques privées d'ailleurs, et d'autre part, et je reviens à la parabole du bon samaritain, sentiment altruiste de charité, de sauvegarde et de solidarité.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication du professeur de médecine Alain Larcan, intitulée « L'aide médicale urgente, évolution et perspective ». C'était le 2 juillet 2007 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques à l'Institut de France.